Dans le cadre de ces travaux archéologiques qui nous ont amenés à travailler sur les pêcheries, particulièrement les pêcheries de la Manche, pourquoi s'intéresser à cette période du début du XVIIIe siècle? Pour une raison principale, c'est que les pêcheries constituent les installations les plus lourdes et donc celles qui sont susceptibles d'avoir laissé le plus de traces sur l'estran, de traces archéologiques notamment. Et puis également, parce que cette période qui va de 1724 à 1740, elle constitue une véritable référence. Pour la première fois, on a un regard scientifique qui est porté sur la pêche, et particulièrement sur ce qu'on appelle la petite pêche, la pêche du littoral. Un regard pratiquement encyclopédique. Il faut savoir qu'au moment où le maçon du parc sillonne les côtes de Normandie, il n'existe pas encore de traité des pêches. Les traités sur la chasse sont déjà parus dès le XIIIe ou le XIVe siècle. Il n'existe aucun traité sur la pêche. Et donc le maçon du parc est l'initiateur, en quelque sorte, du premier traité des pêches, même si celui-ci ne verra le jour qu'après lui. Une référence par rapport aux informations que le maçon du parc apporte, des informations extrêmement précises. Une référence également parce que son travail est extrêmement zélé et il va nous permettre, pour la première fois dans l'histoire de la pêche, de dresser une première cartographie des installations de pêche sur le littoral, ce qui était inimaginable pour les périodes antérieures. Pour ce travail, j'ai utilisé bien entendu les rapports d'inspection des côtes de Le Maçon du Parc, 1724-1730, un certain nombre de dépêches également aux archives nationales, des documents intéressants, assez précis, qui sont les rapports des commissaires enquêteurs pour la vérification des droits maritimes, qui sont en fait, qui vont jusqu'en 1740, qui ont pour but de valider les droits de pêche sur les pêcheries par les propriétaires. Bien entendu, les décisions que sont les arrêts du Conseil du Roi, et puis un certain nombre d'archives autres, archives départementales ou archives privées. Donc ce travail-là nous a permis d'obtenir une masse d'informations qui a été mise en forme au travers d'un SIG qui nous permet de dresser une cartographie. Je reviendrai un petit peu sur le contexte de ces visites de Le Maçon du Parc. 1724, on a affaire à quelqu'un qui découvre le monde de la pêche à pied. On sait qu'il est basé sur Dieppe. C'est pas à Dieppe qu'on a véritablement énormément de techniques de pêche à pied. La mer ne se retire pas très loin. Il est peu précis, même s'il est très zélé. Il est persuadé que bon nombre de pêcheries n'ont pas de titre de propriété. Il va déchanter parce que la plupart en ont. En 1730, il a mûri, il est beaucoup plus précis dans ses observations et la qualité de l'information est meilleure. On le verra plusieurs fois, notamment dans l'inventaire des pêcheurs de basses eaux avec les différentes catégories de métiers. Il y a un travail remarquable à ce niveau-là. Donc, le maçon du parc est missionné pour deux choses. Comme on l'a dit tout à l'heure, la première chose, c'est la raréfaction du poisson et la disparition du frai. Qu'est-ce que c'est que le frai? Alors, le frai, on le voit apparaître avec différents termes. C'est la menuise, la blanche, la mélie, la saumonelle, mais tous ces termes-là correspondent à peu près à la même chose. C'est le petit poisson qui est détruit dans le fond des pêcheries, qui n'arrive pas à s'évacuer au travers des barrages à poissons. Alors, juste un mot sur un personnage annexe qui est le chevalier de Dieppe. Le chevalier de Dieppe, c'est quelqu'un qui est un contemporain de Le Maçon du Parc et qui a fait deux petits traités des pêches très modestes dans les années 1745-50, et puis une mention assez brève dans un de ces traités nous permet d'affirmer que le chevalier de Dieppe était l'illustrateur de Le Maçon du Parc. Alors, ça ne veut pas dire qu'il l'a accompagné dans ses visites. Le deuxième objectif de Le Maçon du Parc, et il est missionné pour ça, c'est, je cite, de vérifier si les pêcheries exclusives sont conformes aux articles relatifs au parc de pierre, au parc appelé Bouchot, au parc de bois, etc., et de s'informer si les seigneurs s'arrogent des droits sur les parcs et pêcheries, sur les pêches faites en mer ou sur les grèves, et s'ils s'attribuent quelque étendue de mer pour y pêcher exclusivement, et sur quel titre ils se fondent. Donc, c'est le deuxième aspect extrêmement important. Donc, c'est la notion de pêcherie exclusive. Alors, pour développer cette notion de pêcherie exclusive, il faut revenir un petit peu au cadre juridique du domaine maritime qui fait son apparition à partir du XVIe siècle. Donc, petit rappel, c'est à partir de 1517 que se constitue ce qu'on appelle le domaine de la couronne, qui va devenir le domaine public maritime. Donc, à partir de l'ordonnance de Moulins en 1566, les rivages de la mer sont dépendances de la couronne, ils sont déclarés inaliénables et imprescriptibles. Le texte vraiment important et qui dure jusqu'à aujourd'hui, qui est encore valable aujourd'hui, c'est une ordonnance d'Henri III en 1584 qui interdit la majeure partie des pêcheries sur l'estran. Mais il y a une tolérance. Donc je cite, les pêcheries et parcs faits et construits depuis 40 ans au bord des grèves de mer, etc., etc., seront démolis et abattus. Donc par conséquent, seuls avaient le droit d'être maintenus en 1584 les propriétaires de pêcheries qui pouvaient justifier de titres de propriété antérieurs à 1544. Et donc ce processus est encore valable aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a encore aujourd'hui sur les grèves de Basse-Normandie, des propriétaires de pêcheries qui relèvent de cette législation-là et qui, d'une manière indirecte ou directe, ont des titres de propriété antérieurs à cette période-là. Donc c'est la seule exception à la législation sur le domaine public maritime. C'est le seul cas, en quelque sorte, qui relève de la propriété privée sur le domaine public maritime. Ce texte est renforcé encore par l'ordonnance de Colbert en 1681. Colbert, il définit de manière très rigoureuse quel type de pêcherie on doit pouvoir construire. Donc, d'un côté, des pêcheries en bois, de l'autre côté, des pêcheries en pierre. Il proscrit l'utilisation de la bâche, dont on verra ce que c'est tout à l'heure, qui est une espèce de filet conique. Et donc, il définit, grosso modo, les règles en rappelant l'ordonnance de 1584. Donc, le maçon du parc est chargé d'appliquer cette ordonnance de 1681 et il est censé pouvoir détruire les installations dont les propriétaires ne peuvent pas justifier ces titres de propriété. Sur les côtes de Basse-Normandie, on a affaire d'un côté à des pêcheries exclusives, c'est-à-dire des pêcheries qui se transmettent par privilège, qui sont généralement des propriétés aristocratiques ou qui appartiennent à des établissements religieux, et puis de l'autre côté, des pêcheries non exclusive, donc que n'importe qui peut édifier sur la plage. Ensuite, j'ai distingué, et ça c'est vraiment c'est ma terminologie personnelle, des pêcheries fixes et des pêcheries semi-fixes. C'est-à-dire, les pêcheries semi-fixes, ce sont des pêcheries qui ne sont pas établies toute la durée de l'année et qui peuvent être démontées assez facilement. Donc, dans un premier temps, on pourrait se dire finalement, les pêcheries exclusives, c'est celles qui fonctionnent toute l'année. Et puis les pêcheries non exclusives, ce sont celles qui sont plus légères. En fait, ce n'est pas si simple que ça, puisqu'il y a une petite catégorie d'installations qui sont des pêcheries exclusives, notamment, on le verra tout à l'heure, les grands guideaux et puis certains bas parcs. Alors, on va faire déjà un tour d'horizon des différents types d'installations que le maçon du parc voit sur le littoral bas-normand. Première catégorie, les parcs en pierre en forme de V. Il s'agit donc de pêcheries qu'il observe dans la région de Granville, qui existent encore aujourd'hui, donc, dont on a une illustration assez importante. Néanmoins, on n'en a pas de bonne représentation pour cette période-là. Alors, on a très bien décrit le système de la bâche, qui est un système d'un filet conique, une sorte de chausse, qui est fixée sur un cadre en bois et qui est disposée sur une porte au moment de la basse mer et qui sert en quelque sorte à vidanger l'intérieur de la pêcherie. Cette bâche est un des gros soucis de le maçon du parc, puisque c'est dans cette bâche que l'on va retrouver le petit poisson qui se trouve complètement étouffé, écrasé. Donc, en principe, selon l'ordonnance de 1781, ces pêcheries en pierre doivent être fermées uniquement par une grille de bois. Pour ce type de pêcheries qui sont des pêcheries exclusives, le maçon du parc ne réussira jamais à imposer l'interdiction de la bâche. Petite description en 1724. Les pêcheurs mettent des bâches pour ce qu'il y a ordinairement vers le gord, c'est-à-dire le gord, c'est la pointe de la pêcherie, qui est l'extrémité du parc, du côté de la mer. Et lorsque les pêcheurs lèvent la clé, c'est-à-dire la porte qui clôt le parc, ils y mettent à la place des bâches montées sur des châsses dans lesquelles toute la salmonelle, le frai ou la manne du poisson reste, où il y périt la petitesse des mailles n'en laissant rien échapper. C'est le secteur principal de l'amirauté de Granville qui est concerné par ce type de pêcherie. Il s'arrête sur deux pêcheries sur lesquelles il se pose des questions, puisque dans le mur de la pêcherie, il voit pointer des pieux. Et il imagine que c'est pour briser avec moins d'effort la houle qui est très forte à cet endroit. Alors on peut se poser des questions parce que, en fait, lors de nos travaux archéologiques, on s'est rendu compte que finalement, il y avait toujours beaucoup de pieux dans ces murs de pierre et que généralement, c'était les vestiges d'installations en bois qui étaient antérieures à la phase des pêcheries en pierre. Donc, est-ce que c'est une mauvaise interprétation de Le Maçon du Parc? On ne sait pas. Alors, on a très peu d'illustrations, on en a quand même quelques-unes qui ne sont pas complètement satisfaisantes et qui représentent principalement ce qu'on pourrait appeler des écluses, un petit peu à l'image des installations de pêche qu'on a sur les côtes charentaises ou en Vendée. Donc du coup, vous allez me dire, il n'y a pas d'écluses en Basse-Normandie. Si, en fait, il y en a eu, et beaucoup plus que ce qu'on pourrait penser, et pas du tout à l'endroit où on pourrait l'imaginer. Qu'est-ce que c'est qu'une écluse? C'est un mur extrêmement long, avec plusieurs portes qui permettent justement la vidange de l'eau, des portes qui sont fermées par des grilles en bois, et toujours des fosses à l'arrière, des trous d'eau dans lesquels les pêcheurs viennent récupérer le poisson avec des petits filets. Et à ma grande surprise, je me suis rendu compte qu'il y a tout un secteur où il y avait des écluses. C'est notamment donc le seul cas d'un ensemble de pêcheries sur la côte du Calvados. C'est sur les paroisses de Haromanche et de Tracy. On a une description très longue de quatre parcs de pierre qui appartiennent au seigneur d'Haromanche et dont voici la description. Donc, les parcs de pierre sont formés de grosses pierres élevées de côté, l'une contre l'autre, si exactement serrées, sans ciment, que rien n'en peut échapper. Ces pierres sont rangées en carrés ou ronds, irréguliers, de manière que le fond ou le dos du parc est toujours exposé à la mer. Ouverture de deux pieds en carré fermée d'un grillage de bois. Les pêcheurs parquiers ont fait des fosses dans lesquelles le poisson de la pêche se trouve ordinairement et où ils le prennent avec leurs petits trubles, qui sont des petits filets. Et donc, on apprend que dans un parc, il y a une ouverture. Dans le deuxième, il y en a deux. Dans le troisième, il y en a quatre. Et dans le quatrième, il y en a cinq. Donc, on est véritablement face à des écluses. La pêcherie, la Tocaise, qui était la pêcherie juste à côté de l'île de Tatiou, fonctionnait également sur ce plan-là. Elle avait plusieurs ouvertures. Alors, dans certains textes, c'est deux ouvertures, dans d'autres, c'est trois. Et même chose, on y apprend qu'il y avait beaucoup d'eau à l'arrière de cette écluse, et que donc les pêcheurs avaient besoin se servaient de petits savreaux ou de savenelles pour y pouvoir prendre le poisson. Donc, on voit déjà une différence entre des pêcheries où il suffit d'aller à pied sec ramasser le poisson à l'intérieur de la pêcherie et d'autres où il y a véritablement une pêche active avec des instruments. Autre cas d'écluse, de véritable écluse, même s'il n'y a qu'une seule porte, c'est la pêcherie de Siouville, je crois Je vous montrerai quelques images tout à l'heure. La pêcherie de Thiouville, qui elle appartenait au seigneur de Flamanville et qui est un grand parc de pierre qui n'a rien à voir avec les pêcheries en V et qui relève du même phénomène. On a également la pêcherie de Surville, mais qui est un exemple un petit peu plus complexe, où on a une partie en pierre, une partie en bois. Deuxième catégorie, probablement la plus répandue, ce sont les parcs de clayonnage, qu'on appelait aussi les bouchots. En bas, vous avez plutôt là une représentation des parcs de clayonnage tels qu'on les rencontre dans la baie de Cancale. Mais pour ce qui nous concerne, on a deux types de parcs de clayonnage. Le premier type est représenté en haut, ce sont les parcs de clayonnage à l'extrémité desquels on a construit un petit benâtre de clayonnage. En théorie, selon l'ordonnance de 1681, ces pêcheries doivent être ouvertes au moins une grande partie de l'année. Et donc le maçon du parc se plaint qu'effectivement elles sont complètement fermées. Parfois, ces parcs de clayonnage sont fermés avec des bâches ou des verveux. Alors, la plupart de ces parcs sont localisés dans l'amirauté de Coutances et ils observent déjà à cette époque-là une différence dans les types de parcs de clayonnage entre le nord de l'amirauté et le sud de l'amirauté. Différence qu'on va retrouver pratiquement jusqu'au XXe siècle, jusqu'à aujourd'hui. Voilà un type de parc de clayonnage. Avec ce que vous avez ici, ce sont des nasses pour la pêche des bars, qui s'appellent des barcières. Il n'y en a pas mention dans le maçon du parc, c'est une curiosité. Parce que, comme technique traditionnelle, je crois qu'on ne peut pas imaginer mieux. Alors, on va retrouver ces deux types, la pêcherie à benâtre, qui est une sorte de chambre circulaire pour la capture du poisson, et en pêcherie du nord de l'amirauté de Coutances, qui sont en forme de V. Mais à l'intérieur, vous avez des petites haies de clayonnage qui forment un étranglement et qui délimitent une chambre de capture. Qui n'est pas de forme circulaire. On a des choses très proches, qui ne sont pas tout à fait fabriquées de la même manière. Alors, on apprend, grâce à Le Maçon du Parc, que ces installations-là ne sont pas utilisées depuis le mois de mai jusqu'à la fin du mois d'août. C'est une grosse différence par rapport à aujourd'hui. Dans cette saison chaude, les pêcheurs n'utilisent pas ces pêcheries, ils ont plutôt tendance à les laisser ouvertes, à ouvrir l'extrémité, parce qu'il y a trop de varech et parce que c'est la période des araignées de mer qui mangent le poisson dans les pêcheries. On a une description également très très intéressante, notamment dans la visite de 1730, sur la technique de construction de ces pêcheries qui, de mon point de vue, n'a pas bougé jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle. La haie de clayonnage est en deux parties. Vous avez les extrémités des bras de la pêcherie sont constituées d'un clayonnage qui est tressé directement sur les pieux, alors qu'à la pointe de la pêcherie, vous avez un panneau de clayonnage qui est tressé à terre, qui est fait de branches de noisetier assouplies, tordues. Il n'y a pas de cordes dans ces pêcheries-là. On utilise principalement des éléments végétaux qui sont torsadés et qu'on appelle des hares. Alors, tout ce système-là, ces techniques traditionnelles qui sont mentionnées par le maçon du parc, elles ont depuis complètement, en grande partie, explosé, on va dire, avec l'introduction des matériaux en plastique qui sont facilement accessibles dans les coopératives conchylicoles. Donc, le plastique a fait son apparition et notamment pour remplacer ces panneaux mobiles tressés. Pas de mention de ces grandes nasses à barres qui étaient entièrement fabriquées en osier. C'est curieux parce que le maçon du parc, d'une manière générale, l'aurait observé. Il s'agit de nasses qui sont spécialisées pour la pêche d'un seul poisson, le bar, qui apprécie les appâts vivants. Donc, on va piocher dans la pêcherie des petits harengs, du petit poisson vivant, le mettre dans la nasse pour attirer uniquement les bars. Donc, comme je l'ai dit, ça c'est extrait également d'un ouvrage qui date d'il y a 25 ans, où était mis en avant une sorte de zonation géographique des pêcheries, avec des savoir-faire, des traditions techniques différentes d'un secteur à un autre. Cette zonation géographique, elle est bien observée par le maçon du parc. avec des pêcheries en pierre dans le secteur de Granville, des pêcheries en bois dans l'amirauté de Coutances, et avec ces deux types de pêcheries. Alors, on est toujours sur les pêcheries exclusives, hein. La dernière grande catégorie de pêcheries exclusives, ce sont les guidos à hauts étaliers. Ce sont des grands filets coniques qui sont fixés sur deux pieux de forte dimension et qui sont positionnés dans les estuaires. Donc, on va les retrouver systématiquement, estuaire de la Seine, estuaire interne, hein, estuaire interne de la Seine, estuaire de l'Orne et baie du Mont-Saint-Michel. Alors, ces guidos à hauts étaliers sont systématiquement des propriétés exclusives. C'est le cas, par exemple, à Villerville, où le seigneur de Villerville fait exploiter 150 guidos depuis la Saint-Michel jusqu'à Pâques, qu'il en tire des revenus importants, 15 sols de rente seigneuriale, et il lève la pêche de ces guidos tous les vendredis. Donc, à l'issue des visites de le maçon du parc, le seigneur de Villerville sera incapable de justifier ses titres de propriété, et on va lui enlever, on va abolir ses droits. Autre zone où il y a des guidos aux étaliers, c'est l'estuaire de l'Orne. Il faut savoir que c'est l'abbaye aux Dames de Caen qui a reçu en 1083 la seigneurie de Ouistreham et ses dépendances. Et donc, les religieuses de l'abbaye aux Dames se sont progressivement appropriées tous les droits de pêche entre Ouistreham et pratiquement le pont de Colombelles. Et il y a un conflit très important qui a lieu dans le cours du XVIIIe siècle, qui oppose plusieurs parties. On a donc ces religieuses. On a le seigneur de Salnelles, qui est sur la rive droite, qui est à l'époque le président du Parlement de Normandie. On a les officiers d'amirauté, qui essayent de préserver la navigation sur l'Orne. Et puis, on a les fermiers de l'abbaye aux Dames, qui sont les pêcheurs, qui défendent leurs droits également, qui essayent de s'implanter dans des zones où il n'y a pas de droit. Alors, ce qui complexifie encore le problème, c'est qu'à cette époque-là, il y a un mouvement du chenal de navigation vers l'ouest, vers Ouistreham, ce qui empêche les religieuses de l'abbaye aux Dames d'implanter leurs guidos. Donc, il s'agit de trois grandes rangées de guidos. Et donc, sous la contrainte, elles se sont implantées sur la rive opposée. Et c'est là qu'il y a contestation avec le seigneur de Salnelles. Donc on apprend que les religieuses ont quatre rangées de chèvres de guidos, dont trois qui sont à l'abandon, parce qu'il y a certaines zones qui sont ensablées. Mais que les pêcheurs de Bénouville se sont également implantés dans des zones sans avoir le droit de s'y implanter, et que ces pêcheurs exploitent ces guidos à partir d'une vingtaine de petits bateaux. Alors, le maçon du parc fait une distinction entre les guidos à hauts étaliers, qui sont des pêcheries exclusives, et les guidos à bas étaliers, qui ne sont pas des pêcheries exclusives. Donc, n'importe qui peut les installer sur le littoral. Dans un procès-verbal de l'amirauté de Ouistreham, en 1597, on parle de thésure de guidos. C'est-à-dire que le terme de thésure exprime le fait qu'on a ces filets mis bout à bout sur des grandes rangées. On va trouver ce terme de guidos à bas étaliers uniquement dans la baie du Mont-Saint-Michel. Et on a là probablement affaire à une forme antérieure, une forme primitive de ce qu'on appelle aujourd'hui les thésures. Dans la baie du Mont-Saint-Michel, ces sortes de verveux fixés sur des pieux sont appelés des thésures. Et donc en relation avec cette expression de thésure de guidos qui apparaît au XVIe siècle. Par ailleurs, j'ai trouvé une mention de thésure dans une charte de donation qui concerne l'abbaye du Mont-Saint-Michel au XIIe siècle. Donc le terme est déjà très ancien. L'abbaye du Mont-Saint-Michel est un monde un petit peu à part, puisqu'il y a un certain nombre de techniques assez légères qui n'apparaissent que dans la baie du Mont-Saint-Michel, principalement à cause des courants qui sont extrêmement forts. Et donc, le maçon du parc mentionne des chausses, des sacs, des benâtres, des didots, des quidias, des bâches, des guidos volants, grosso modo des chausses de filets qui ont la forme de demi-cercles et qui sont fixés avec quelques pieux. Alors là, on va passer progressivement vers la catégorie des pêcheries non exclusives. Là, il s'agit des hauts parcs. Il s'agit donc d'un filet extrêmement haut qui est tendu perpendiculairement à la côte, à peu près à 20 ou 30 cm du sol, et qui contraint le poisson à se diriger dans une espèce de chambre qui a la forme d'un haricot, qui est ouverte vers le large, une petite porte pour justement laisser s'écouler l'eau. Et le filet dans sa partie basse est fixé sur soit un petit muret, soit une paroi de clayonnage de faible hauteur. Donc ces hauts parcs concernent principalement la Haute-Normandie. Le maçon du parc, uniquement pour le secteur de Barfleur, évoque quelque chose qui ressemble à ça et qui pourrait s'identifier à cette forme-là, qui vient du traité de Duhamel du Monceau. Les hauts parcs de la région de Barfleur s'apparentent davantage à ceux du Pays de Caux, avec une chambre en forme de cœur et une chasse, et on les appelle des parcs à mulets. En réalité, les hauts parcs sont extrêmement nombreux, mais dans la plupart des cas, ils n'ont pas cette forme-là. Apparemment, ce sont des filets droits, toujours selon le même principe, tendus perpendiculairement à la côte, avec la possibilité pour le poisson de passer sous le filet. Mais dans la plupart des cas, on a affaire à des filets qui ont un crochet à leur extrémité. Alors, on a différents noms qui sont utilisés pour ces hauts parcs. On les appelle des étalières, des haranguières, des multières, des parcs à harangues, des parcs à sansonnets. Les sansonnets, ce sont les petits maquereaux. Des parcs à mulets, des raies aux harangues, des étaliers, des orfilières, des étantes, etc., etc. Mais ça correspond toujours au même type d'installation. Et ça commence depuis l'estuaire de l'Orne et ça va jusque dans le secteur de Barfleur. Ce sont des installations saisonnières qui sont utilisées essentiellement de l'automne jusqu'au mois de mars de l'année suivante et qui sont relativement spécialisées dans la pêche de certains poissons qui se rapprochent de la côte généralement à l'automne pour leur reproduction. Donc c'est le cas des mulets, des harengs et des maquereaux. Alors, on apprend par exemple qu'à Colville, sur la côte du Calvados, les multières sont des filets tendus perpendiculairement à la plage, d'un bout à terre, l'autre à la mer, qui peuvent mesurer 5 à 6 pieds de hauteur, 40 à 50 brasses de longueur. Ils sont tendus comme des hauts parcs, avec leur extrémité côté mer, un crochet qui est tramaillé. C'est-à-dire que la partie qui va être la plus sollicitée est renforcée par la présence de 3 filets. Donc le même type d'installation pour la pêche au hareng va s'appeler haranguière à un endroit, pour la pêche au mulet ça va s'appeler multière, etc. etc. Ces hauts parcs en forme de crochet, ils ont fonctionné jusque après les années 1960 et actuellement, je n'arrive pas à trouver une photographie de ce type de filet de pêche. Aucune carte postale. Il semblerait que ça fasse partie d'un patrimoine enfoui profondément et pourtant un patrimoine extrêmement récent. J'ai commencé à questionner quelques pêcheurs, etc., qui m'ont répondu, mais vous savez, nous, dans les années 50-60, on n'avait pas les moyens de s'acheter un appareil photo. Et comme c'est une zone peu touristique, on a ce problème-là. J'imagine qu'il y a des photos quelque part, mais elles restent à trouver. Autre catégorie importante, qui sont d'une manière générale des pêcheries non exclusives, ce sont les bas-parcs, qui sont appelés aussi les venets. On les appelle des venets, des fourrés, des courtines. Le principe de capture est toujours identique. C'est un filet bas qui est fixé sur des perches et dont le bas est enfoui dans le sable. Les pieux ne peuvent s'élever hors de terre de plus de 4 pieds. Et la maille est définie par l'ordonnance de 1681. Certains des bas-parcs sont, comme le dit le maçon du parc, sont flottés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas fixés sur des pieux. Certains sont accrochés entre des pointements rocheux. C'est le cas notamment de plusieurs installations qui sont propriétés exclusives dans le secteur de Montfarville. C'est propriété exclusive du seigneur de Montfarville. Et donc, il détient une dizaine de ces installations qu'il tend en travers des rochers. Donc, c'est un cas particulier. Le seigneur de Merville également ont un certain nombre de bas-parcs qui sont pêcheries exclusives. Les ravoirs, ce sont des filets qui sont disposés en rangées parallèles, amarrés uniquement sur la tête des piquets et rangés en ligne droite. Et en fait, le bas du filet est juste attaché aux deux extrémités de l'alignement du pieu et le filet est rebroussé. C'est-à-dire que le principe, c'est que le poisson va se piéger dans la partie rebroussée du filet. Alors, catégorie extrêmement importante quantitativement, ce sont les demi-folles. Les demi-folles, on les appelle également des flues ou des macrolières. Alors, il s'agit d'un filet à très grosse maille qui peut servir de deux façons différentes. Lorsqu'il est dressé à la verticale, c'est un poisson qui va servir à pêcher uniquement les poissons plats. Lorsqu'il est établi en berceau, il s'agit d'une technique de pêche des oiseaux de mer. Je dis bien pêche des oiseaux de mer, puisque on dispose le filet au-dessus de moulières, d'endroits où il y a des coquillages. Les oiseaux de mer, que sont les macreuses, plongent dans l'eau pour chercher des coquillages et se prennent dans les mailles du filet. C'est une activité colossale pour toute la baie de Seine au sens large, c'est-à-dire depuis l'estuaire de la Seine jusqu'à la baie de Saint-Vin, avec un commerce qui est considérable. Des oiseaux qui sont transportés sur la région parisienne, etc. Le maçon du parc évoque également un certain nombre de nasses, qui sont des choses assez classiques, qu'il appelle des paniers, des bouteilles, des nasses qui sont fixées sur des pieux. Lors de sa visite de 1730, il tombe en arrêt sur le port de Honfleur. Il tombe en arrêt devant une grande nasse qu'il décrit de la façon suivante. C'est une grande nasse, une tonne, une borgne, que les pêcheurs nous ont dit être un gor ou gare, semblable à celle que les pêcheurs des Bouchots de Cancale mettent à l'égout de leur pêcherie, ayant environ 4 à 5 pieds de hauteur, long de 7 à 8 pieds. Donc c'est quelque chose de très très grand, qui était fixé sur au moins 6 pieux. Les rapports de Le Masson du Parc, les arrêts du Conseil, etc., nous permettent d'avoir des données quantitatives extrêmement précises. Elles nous permettent de commenter la répartition géographique de ces installations. En commençant, là, il s'agit uniquement des pêcheries exclusives. On ne peut pas traiter de la même manière les deux qui ne sont pas mentionnés de la même manière. Les pêcheries en V, uniquement l'amirauté de Granville. Les pêcheries, les parcs de Cléonnage, uniquement l'amirauté de Coutances. Alors, c'est quelque chose d'assez curieux, que personnellement j'ai du mal à expliquer. Peut-être que c'est un des effets pervers de l'ordonnance de Colbert qui dit finalement les pêcheries ne doivent être construites qu'en bois ou qu'en pierre. Et donc peut-être que des officiers d'amirauté ont fait un travail un petit peu énergique à ce niveau-là. Et on va voir que toute la zone des parcs de pierre et des parcs de Cléonnage, c'est une zone où il y a extrêmement peu de techniques de pêche légère. Il y a une exclusion pratiquement complète entre les parcs de Cléonnage, parcs de pierre, et puis toutes ces techniques de filet tendu sur des pieux. On va avoir une trilogie constante qui va être haut parc, bas parc et demi-folle, qui sont des techniques de pêche qui sont pas orientées du tout vers le même type de ressources. Sur les propriétaires, c'est principalement ces pêcheries exclusives sont essentiellement entre les mains de l'aristocratie et certains établissements religieux comme l'abbaye aux Dames ou bien l'évêché de Coutances, l'église d'Agon, mais ça reste marginal pour cette période du début du XVIIIe siècle. Bon, je passe sur les noms. En lisant avec attention la visite d'inspection de 1730, j'ai eu le plaisir de constater que le maçon du parc avait fait son travail avec beaucoup plus de zèle qu'en 1724. Il est beaucoup plus précis dans les catégories de pêcheurs. Il crée notamment de nouvelles catégories. Il distingue, pour l'amirauté de Coutances et l'amirauté de Granville, il distingue les boucholeurs, les parquiers et les parquilleurs. C'est parquier, parquilleur, c'est identique. Donc les boucholeurs sont les exploitants de pêcherie pour les parcs en bois. Et les parquiers, parquilleurs sont les exploitants de pêcherie pour les parcs de pierre. Donc j'ai pris deux exemples. À Pirou, donc dans le nord de l'amirauté de Coutances, on a 33 boucholeurs en 1730. Il y en a qu'un qui n'exerce que cette profession-là. Les autres ont tous une seconde profession. Donc 17 sont laboureurs, 8 sont journaliers, 2 sont à la fois tisserands et charpentiers, 4 sont pêcheurs en mer. Et un seul est maître de bateau. Donc on a un lien très très fort avec le monde agricole. J'ai pris dans le secteur des pêcheries en pierre la zone de Saint-Père-Bouillon, etc., où j'ai 16 pêcheurs qui sont identifiés comme parquiers. Et là c'est un petit peu différent, puisqu'on a effectivement une partie qui sont des petits laboureurs, mais on a également 7 qui exercent le métier de pêcheur à pied. Ils pratiquent pratiquement tous le métier de pêcheur à pied, ce qui n'est pas absolument pas mentionné pour le secteur de Pirou. Ce qui est peut-être en liaison avec la proximité de Granville, qui nécessite l'approvisionnement en appât, en petits poissons, pour la pêche à la morue. On sait également, au travers des visites de la maçon du parc, qu'il y a systématiquement plusieurs exploitants qui se mettent en commun pour exploiter la même pêcherie. On peut avoir jusqu'à 4 exploitants, voire plus, sur une même pêcherie. À l'inverse, on peut avoir des exploitants de pêcherie qui travaillent sur plusieurs pêcheries à la fois. Alors, les archives de Le Masson du Parc sont également, notamment, surtout les rapports des commissaires enquêteurs là, pour la vérification des droits maritimes, c'est une source très intéressante, puisque 1724-1730, on demande aux propriétaires de pêcheries de produire leurs titres de propriété. Et donc, les dates de ces titres sont mentionnées, parfois, parce que il faut absolument qu'ils soient antérieurs à 1544. Et donc, c'est là qu'on se rend compte que la plupart de ces pêcheries qui sont là en 1730 prennent leur origine vraiment dans le Moyen Âge. Certaines pêcheries qui sont des propriétés religieuses ont des titres de propriété qui remontent au XIe ou XIIe siècle, mais la plupart sont à même de produire des titres qui remontent au XIVe et au XVe siècle. Cette répartition géographique, elle semble assez peu bouleversée entre le Moyen Âge et la fin de l'Ancien Régime. On a cette opposition entre la façade ouest du Cotentin et puis ce qu'on va appeler la baie de Seine. Et on peut se demander si on n'a pas des circonstances historiques qui ont amené cette organisation. On a du mal à comprendre pourquoi il y a aussi peu de pêcheries fixes sur la côte du Calvados. Et alors peut-être que c'est lié à la formation du duché de Normandie, avec des donations de la part des seigneurs normands, des dotations en pêcheries extrêmement abondantes sur des zones qui sont éloignées de l'autorité ducale. Et peut-être que cette situation-là, elle est finalement héritée, mais c'est vraiment une hypothèse qui mériterait d'être creusée. Sur les effets des visites de Le Masson du Parc, c'est clair que Le Masson du Parc est extrêmement énergique. Il annonce la destruction d'un nombre très important de parcs de pierre, de bois. Par exemple, pour l'amirauté de Coutances, il annonce vers 1730, la destruction de 36 parcs de bois. En réalité, lorsqu'on fait le bilan aux alentours de 1740, le bilan est vraiment très mitigé, puisque seuls ont été supprimés les 8 tentes ou pêcheries du seigneur de Montfarville, 9 bas-parcs, quelques-uns des guidos de l'estuaire de l'Orne, 16 parcs de clayonnage et 5 parcs de pierre. Parmi ces installations qui sont dites détruites, il y avait en plus des installations qui étaient déjà à l'abandon au moment du passage de Le Masson du Parc, qui n'étaient plus en fonctionnement. Dans le cadre de notre projet, on a réalisé des prospections, on a réalisé également des campagnes de photographie réalisées avec des cerfs-volants qui permettent de montrer l'importance des traces qu'a conservé le littoral de cette activité. La pêcherie de Thiouville, dont le plus ancien texte date de 1372, elle est encore visible et elle possède encore sa porte qui servait à caler une grille de bois. Le secteur de Donville-les-Bains, où on a la pêcherie Bayon, plus derrière la pêcherie Grignard, dont le plus ancien titre de propriété date de 1411. Alors, simplement, également, sur des secteurs où les pêcheries sont relativement fixes entre le XVe siècle et la période actuelle, on s'est rapidement aperçu que non seulement ces pêcheries, elles avaient une beaucoup plus grande mobilité, mais également leur système technique avait largement évolué. Notamment sur la pêcherie Boulemer à Saint-Père, on a la trace d'une pêcherie entièrement en bois qui est datée du XIe, XIIe siècle, avec un système de chambres de capture, un complexe de pêcheries plus récent, dont l'une des étapes date du XVe siècle, qui est bien datée par la dendrochronologie. Et on a trouvé la base d'une porte qui est une porte non pas en pierre mais en bois, et qui montre que le système de ces clés qui fermaient les pêcheries en pierre se met déjà en place dès le milieu du XVe siècle. Voilà. Et puis on arrive à réaliser une cartographie de l'Estran en cumulant un certain nombre de traces et de documents d'archives qui nous permet de mesurer l'impact de cette activité. Dans des zones telles que la zone entre Port-Bail et Carteret, où le maçon du parc ne mentionne que deux pêcheries, on a véritablement des dizaines et des dizaines de barrages en pierre dont la mémoire s'est complètement perdue localement. Sur le secteur d'Agon-Coutainville, où on sait que le curé d'Agon-Coutainville détenait à peu près 11 parcs de clayonnage. Rien que sur la commune d'Agon-Coutainville, on a pratiquement une soixantaine, 60, 70 traces de parcs qui montrent l'importance de cette activité, y compris dans des zones qui sont aujourd'hui en grande partie transformées, puisqu'elles sont dévolues à la production des moules. Voilà, dans ces parcs de moules, on a encore la trace de ces parcs de bois. Ici, en l'occurrence, ne sont visibles finalement que les pierres qui servaient à protéger le pied de la haie. Voilà, je vous remercie.